France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Wokisme, cancel culture, déconstruction. Depuis des années maintenant, ces mots sont lancés comme des anathèmes par certains chercheurs et certaines chercheuses contre leurs collègues pour tenter, au nom de la science, de discréditer leurs travaux. La science et la politique ne se situent pourtant pas là où le laissent penser de telles attaques largement reprises par des médias avides de spectacle. Loin d'être scientifique, en effet, ces attaques sont d'abord politiques et prennent paradoxalement pour cible des travaux qui offrent au contraire de précieuses ressources épistémologiques à l'ensemble des sciences humaines et sociales. C'est ce que montre un ouvrage coécrit par deux professeurs de sociologie, Éric Fassin et Caroline Ibos. Caroline Ibos est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. Et c'est une écrivaine, Caroline Lamarche, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission. Elle a publié en cette rentrée littéraire un très très beau roman, l'un des romans, je pense, les plus importants de cette rentrée, Le Bel Obscur. Un roman qui nous permettra de faire écho à ses réflexions sur le genre en particulier. Et puis enfin, en dernière partie de l'émission, on fêtera un petit peu en avance les 80 ans de l'INED avec Géraldine Duthé. Bonjour Caroline Ibos.
Bonjour Sylvain Bourmeau.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8 et avec Éric Fassin, vous publiez aux presses universitaires de France « La savante et le politique, ce que le féminisme fait aux sciences sociales ». Alors, vous partez d'une situation que je brossais à grands traits en introduction de cette émission, une situation liée à l'espace public où l'on a vu ces dernières années se multiplier les attaques à l'endroit de certains travaux, des travaux que des chercheurs et des chercheuses cherchent à discréditer au nom de la science en expliquant que ces travaux relèvent davantage de la politique. Ça a donné lieu à des colloques, des publications, surtout un certain nombre de tribunes dans les journaux. Et au fond, c'est le point de départ du livre que vous proposez avec Éric Fassin, le point de départ qui vous donne l'occasion de montrer au fond ce qu'il en est du travail des sciences sociales aujourd'hui, Caroline Ibos.
Oui, effectivement, il y a une campagne extrêmement féroce contre les savoirs critiques, c'est-à-dire contre des démarches en sciences sociales qui essaient de questionner ce qui peut sembler évident. Et finalement, ben, la science, c'est un petit peu ça. C'est montrer que tout n'est pas si simple, que ce qui semble aller de soi ne va pas de soi. Donc, les scientifiques qui font ce travail sont finalement dans leur rôle et essaient de bien faire leur travail. Et contre cela, eh bien, il y a des attaques qui ont commencé dans des régimes autoritaires. On a vu ça, par exemple, en Hongrie, contre les études de genre. On a vu ça aussi au Brésil, sous l'impulsion de Bolsonaro, en Turquie, dans la Russie, que je connais bien depuis très longtemps. Là aussi, contre les études de genre, la sociologie, toutes les démarches aussi historiques qui essaient de faire des contre-histoires, des histoires officielles. Et pendant longtemps, on s'est senti un peu protégé en France, parce que la France, il y a tout de même une longue tradition de protection des libertés académiques. Mais, comme vous le dites, en fait, il y a deux attaques qui se croisent. Il y a celle du pouvoir politique, et en 2020, le président Emmanuel Macron avait, dans un off publié dans le journal Le Monde, attaquer les sciences sociales et les chercheurs en les accusant de casser la République en deux, ce qui n'est pas rien tout de même. Et tout cela a été repris après par des ministres, par le ministre de l'Éducation nationale, par la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, qui avait déclaré à l'Assemblée nationale qu'elle allait lancer une enquête contre un certain nombre de champs de savoir pour voir ce qui, dans les recherches, relevait vraiment de la recherche et de la science.
On sait ce qu'il en est advenu, c'est-à-dire rien.
Voilà, on sait ce qu'il en est advenu, c'est-à-dire rien. Enfin, rien sur le plan de l'enquête.
Oui, mais ça laisse des traces.
Ça laisse des conséquences, et les conséquences sont importantes, parce que finalement, c'était une stratégie d'intimidation. Cela voulait dire, les recherches que vous menez ne sont pas légitimes. Voilà, donc, et finalement, tout cela ne cesse de se renforcer. Comme vous le dites, comme vous l'avez très bien dit, il y a aussi des attaques qui viennent du monde universitaire contre d'autres chercheurs.
Et alors, ces attaques, c'est extraordinaire, parce que ce sont des attaques qui se drapent dans la science pour attaquer d'autres scientifiques, mais qui elles-mêmes n'ont pas vraiment les attributs de la scientificité. Je voudrais juste citer une phrase qui est au début de votre livre. Vous rappelez que la sociologue de l'art, Nathalie Hennig, s'en prend dès la page introductive d'une petite publication à, je cite, « l'emprise croissante d'un militantisme littéralement déplacé qui tend à transformer les salles de cours en lieux d'endoctrinement et les publications en tracts. Or, notez-vous, ce bref texte est publié dans une collection de Gallimard qui justement s'appelle Tract. Enfin, tout est dit au fond, Caroline Ibos.
Voilà, c'était elle aussi qui parle de totalitarisme d'atmosphère. Donc bien sûr, l'outrance de ses propos les délégitime immédiatement, mais tout cela entretient une confusion et surtout détourne de la vraie question qui est comment faire des sciences sociales de manière critique en les faisant le mieux possible et en problématisant nos objets de recherche et en contribuant à la société, parce que effectivement les savoirs ne sont pas neutres, les savoirs sont engagés, et c'est une position que l'on revendique dans la savante et le politique, mais s'ils sont engagés, c'est a priori pour contribuer à une amélioration de la société, et non pas une détérioration.
Alors, neutralité, d'ailleurs c'est un mot un peu vieillot, un peu ringard. Dans le livre, vous reprenez un dessin humoristique que j'ai choisi de mettre en illustration de cette émission aussi. Et ce dessin, il figure dans un guide pratique de l'engagement pour les chercheurs et les chercheuses que le CNRS a publié cette année 2025. Le CNRS, donc, ne voit aucun problème dans le fait pour les chercheurs d'être engagés dans la science, en tous les cas, et récuse l'idée de la recherche d'une neutralité inaccessible qui n'a aucun sens du point de vue, en fait, de la démarche scientifique, Caroline Ibos.
Oui, alors le dessin, c'est un dessin magnifique d'une jeune dessinatrice qui, en un croquis, elle s'appelle Adèle Huguet, et en un croquis, elle a vraiment capté tout ce qu'on développe dans le livre. Alors la neutralité, disons que c'est au mieux une illusion. C'est impossible d'être neutre, puisque on est tous et toutes, on appartient à un monde social et on réfléchit sur le monde social.
Depuis une position.
Oui, depuis une position, le monde social n'est pas neutre, donc c'est impossible. Mais ce ne serait pas souhaitable non plus, parce que comme je le disais, avoir un point de vue sur la société, eh bien, c'est aussi réfléchir à la société que l'on veut. Donc, être neutre, s'il y avait une vraie neutralité, en fait, ça permettrait les sciences les plus terribles que l'on puisse imaginer. Donc, bien sûr, la neutralité n'est ni possible ni souhaitable, et c'est au mieux, cette idée de neutralité, une illusion, mais c'est aussi au pire, et en fait, c'est une rhétorique politique pour faire taire. Et elle s'appuie, cette rhétorique politique, sur des choses qui peuvent sembler évidentes, en fait, à l'opinion publique. Parce qu'il y a une confusion qui est faite entre neutralité et objectivité. Donc, nous, ce que l'on dit, Éric Fassin et moi, c'est pas de neutralité, mais en revanche, de l'objectivité.
Alors, neutralité, il faut qu'on s'arrête un moment sur ce mot et sur les ressources dans lesquelles vont puiser ceux qui attaquent aujourd'hui des travaux comme les vôtres. Et il faut dire la plupart, en fait, des travaux des sciences humaines et sociales qui se retrouvent sous le feu de ce type de critiques. Neutralité, le mot renvoie, pour ceux qui se drapent dans la science pour vous attaquer, à un auteur en particulier sur lequel vous vous arrêtez, qui est très important parce que c'est une référence obligée. C'est un très grand sociologue, l'un des fondateurs, considéré comme tel, de la discipline, Max Weber. Simplement, neutralité, c'est la traduction en français, neutralité axiologique, la traduction d'une expression qui est un petit peu plus compliquée que ça à traduire, qui peut se traduire différemment. D'ailleurs, d'autres traductrices en l'occurrence ont proposé des traductions différentes. Et surtout, c'est un profond contresens par rapport à ce que Max Weber, qui était par ailleurs un homme politique à bien des égards, entendu au sens large, lui-même souhaitait, en fait. Max Weber s'en prenait à cette rhétorique du juste milieu. Cette phrase est très belle aussi que vous citez. Elle date de 1904. Le juste milieu n'est pas le moins du monde une vérité plus scientifique que les idéaux les plus extrêmes des partis de droite ou de gauche. C'est le genre de phrase qui fait du bien à lire aujourd'hui. Mais Weber, dans ses conférences célèbres qui ont été réunies en France spécialement, et vous vous arrêtez là-dessus, c'est très important pour comprendre comment il est instrumentalisé au fond. Weber est utilisé un peu n'importe comment dans notre pays pour défendre cette idée de neutralité axiologique. En fait, ce que prônait Weber, ça ressemble bien davantage à des formes d'engagement scientifique telles que vous les défendez, Caroline Nibos.
Bien sûr, d'abord, toute l'œuvre de Weber est engagée. Non seulement il était engagé politiquement, mais par ailleurs, son œuvre est engagée. C'est une œuvre profondément politique, puisqu'il revendique l'état de droit, la constitution, l'état légal rationnel. En fait, il est contre l'Empire. Donc il a une position politique très claire et on ne peut pas comprendre son œuvre si on ne comprend pas sa position en la recontextualisant, notamment dans l'Allemagne des années 10 puis des années 20. Alors, neutralité axiologique, en fait, oui, il y a déjà eu des travaux comme ceux d'Isabelle Kalinowski et de Catherine Colliot-Hélène. Isabelle Kalinowski a bien montré que Le savant et le politique, c'est un livre qui est une invention française, puisqu'il s'agit de deux conférences, une sur la science et l'autre sur l'homme politique.
Prononcées à deux ans d'écart.
Voilà, prononcées l'une en 1917, l'autre en 1919, qui sont réunies en un seul livre, avec comme objectif, donc c'est Raymond Aron, un très grand connaisseur de Weber, qui fabrique ce livre. La traduction est de Julien Freund et ce livre est publié en 1959 contre la sociologie marxiste. Donc le propos, il est clair, le savant et le politique, c'est bien séparer les deux et affirmer que plus l'on est savant, moins on doit s'engager politiquement, et que plus on est engagé politiquement, moins on est savant.
Ce livre permet au fond de véhiculer l'idée de vase communicant entre la science et le politique. Or, c'est pas du tout la pensée de Weber.
Non. Weber ne dit à aucun moment cela. Weber, qu'est-ce qu'il dit quand il parle de neutralité éthique? En fait, il s'en prend, et il en parle effectivement, il s'en prend à des enseignants dans les salles de cours qui profitent de leur autorité ou de leur aura pour imposer leurs idées à des étudiants. Donc on est dans la...
Et ça, il le réprouve très clairement.
Il le réprouve très clairement. Il faut dire qu'on est dans l'université allemande du début du XXe siècle. Donc les relations aujourd'hui ont changé. Donc là, on est vraiment dans une très forte relation d'autorité. Et qui il vise? En fait, il vise des enseignants de droite, voire d'extrême droite et antisémites. Donc voilà, donc ça c'est le contexte qui lui fait dire on ne doit pas profiter de sa position d'autorité pour exprimer ses opinions politiques. Et là, moi, Éric Fassin et moi, on est totalement d'accord avec ça. Et précisément, les démarches critiques, ce n'est jamais imposer des opinions, puisque c'est remettre en cause...
L'autorité.
L'autorité, les opinions, au nom de la science, de remettre tout cela en cause.
Alors, dans ce livre, vous vous arrêtez ensuite sur un autre sociologue très très important pour penser ces questions d'autonomie de la science en particulier, c'est Pierre Bourdieu. Vous le faites à la fois pour souligner ce qu'il apporte et les limites de cet apport aussi dans la manière de concevoir au fond la recherche scientifique, sa réflexivité pour prendre le concept important chez lui, mais comme on n'a pas le temps de revenir sur l'ensemble de ce livre très, très dense, je vous propose qu'on passe à la partie critique que vous faites de Pierre Bourdieu. Parce que, au fond, vous en retenez des choses intéressantes, importantes. Et en même temps, vous montrez à partir d'un autre faux livre, en quelque sorte, même si celui-là, il est fabriqué par son auteur, Pierre Bourdieu, La domination masculine. Je dis faux livre parce qu'au fond, c'est un livre qui réunit des études assez différentes. C'est pas un livre qui a la cohérence d'autres livres de Pierre Bourdieu, comme les méditations pascaliennes, le sens pratique ou la distinction. C'est un livre qui réunit des travaux très anciens sur la Kabylie avec des choses plus récentes qui sont des lectures de Virginia Woolf, par exemple. Mais Bourdieu a quand même l'audace, on va dire, de titrer ce livre « La domination masculine », ce qui provoque l'ire de certaines de vos collègues féministes, historiennes, sociologues, qui à l'époque lui reprochent au fond de ne pas avoir lu des travaux pourtant déterminants et sur lesquels vous vous arrêtez dans ce livre. Et c'est plutôt de cela dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, des travaux de féministes, de théories féministes, qui sont importants non pas seulement en raison des objets qu'elles prennent et qui sont des objets très décisifs, mais aussi du point de vue épistémologique, qui est la question qui vous intéresse ici. En quoi ces théories féministes des années 80, sur lesquelles vous vous arrêtez longuement dans le livre, vous semblent, alors même qu'elles sont la cible de toutes les attaques dont on vient de parler, vous semblent très très importantes pour continuer de renforcer, je dirais, le caractère scientifique de la démarche des sciences humaines et sociales?
Alors oui, c'est un ensemble de théoriciennes, la plupart sont philosophes, mais aussi une sociologue, comme Dorothy Smith. Et Dorothy Smith est importante, puisque c'est elle qui propose le concept de « standpoint » en anglais, qu'on traduit parfois par « positionnement » et parfois par point de vue. Alors, elles sont extrêmement importantes parce que ce qu'elles disent peut sembler complètement contre-intuitif, mais elles disent qu'en réalité, donc elles travaillent sur l'objectivité. Et elles trouvent, notamment Sandra Harding, qui est une philosophe, épistémologue, trouve que jusqu'ici, l'objectivité dans les sciences a été très faible. Et elle s'appuie sur le féminisme pour montrer que bien, tout un tas de questions sociales très importantes n'ont jamais été considérées par les sciences. Et elle ne travaille pas que sur les sciences sociales, elle travaille même principalement, elle, sur les sciences de la nature. Donc, ce qu'elle dit, c'est que pour que la science soit objective, eh bien, il faut convier autour de la table de la science et dans toutes les procédures de la science le plus de monde possible, et notamment des minorités. Et que ces minorités, eh bien, c'est en s'appuyant sur leur expérience, non seulement qu'elles auront un point de vue critique sur une science majoritaire, donc là, il y a un apport critique, mais aussi qu'elles vont apporter de nouvelles questions. Donc, effectivement, là, on parlait de Bourdieu et de la réflexivité, de Pierre Bourdieu et de la réflexivité, ce qui est un moment très, très important dans la démarche scientifique. Mais chez Bourdieu, la réflexivité, ça doit être le moyen, finalement, d'identifier ses biais pour gagner en objectivité en atteignant ce qu'il appelle le point de vue sans point de vue. Et les épistémologues féministes, elles disent, il n'y a pas de point de vue sans point de vue.
Ce qui est intéressant, c'est que Pierre Bourdieu avait parfaitement conscience, il le montre bien dans les méditations pascaliennes en particulier, des problèmes que pose la philosophie en général, qui se pense comme une reine des disciplines, qui serait capable de surplomb. Donc il était capable de faire cette critique, mais pour autant il pensait avoir trouvé avec la sociologie un moyen d'objectiver l'objectivation, comme il disait, c'est-à-dire au fond, compte tenu de cette réflexivité, compte tenu du fait que on pouvait savoir d'où on parlait en particulier, eh bien on pouvait prétendre atteindre une position de surplomb qui, elle, serait davantage fondée que celle dont on héritait depuis la philosophie. Or, ce que montrent ces chercheuses féministes dans les années 80, c'est que cette démarche est totalement vaine, en fait. Que ce n'est pas en passant par cette voie-là qu'on parvient à une démarche scientifique la plus rigoureuse possible.
Oui, pour dire un dernier petit mot sur Bourdieu avant de plus parler de Sandra Harding et Donna Haraway, d'une part, bon, son œuvre est tellement complexe à Bourdieu que à chaque fois on dit il pense ça, puis en fait il pense jamais tout à fait ça, et il développe d'autres choses dans d'autres textes. Donc il est très très difficile
à résumer,
il faut pas le simplifier. Je pense qu'il faut le prendre comme une question. C'est la question Bourdieu, et ce que l'on pointe dans ce livre, c'est que en même temps toute sa démarche dément en fait ce que lui-même prétend faire, puisque il l'assume et il le dit à plusieurs reprises, notamment à France Culture. On a travaillé sur des archives de France Culture. Il dit que toute sa démarche scientifique part d'une énorme colère. Donc, en réalité, une colère sociale qu'il ressent. Donc, en réalité, c'est fondé dans, ce sont des émotions qui l'ont rendu sensible, qui l'ont rendu lucide. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer la complexité de Bourdieu. Alors, Sandra Harding et Donna Haraway, je prends ces deux noms parce que c'est elles qui portent un peu les épistémologies féministes dans le travail de l'œuvre de ces épistémologies. Bien, effectivement, donc elles sont assez différentes. D'abord, Sandra Harding, elle croit à la science. Elle n'est pas du tout relativiste.
Donc, oui, ça c'est très important. Vous insistez beaucoup là-dessus parce qu'on a tendance à balayer parfois d'un revers de la main ces théories féministes en disant c'est du relativisme. C'est tout le contraire en fait.
Tout le contraire. Elles sont pas relativistes parce qu'elles pensent que le relativisme, ça reviendrait à dire bah tout le monde a un peu raison, et donc celui qui l'emporte, bah c'est dans la rhétorique, c'est que le plus fort gagne. Non, elles, ce qu'elles veulent, et c'est la formule d'Haraway qui est, je trouve, très éclairante, c'est la science doit produire des savoirs fiables. Et ça, c'est l'objectivité, c'est produire des savoirs fiables. Alors Harding, elle pense que d'une part, des savoirs fiables, ça veut dire contextualiser ce qu'on fait. Et là, elle le dit très clairement, les sciences de la nature doivent prendre modèle sur les sciences sociales, parce que les sciences de la nature ne contextualisent jamais ce qu'elles font. Donc le premier principe d'objectivation, c'est ce qu'elle appelle, en fait c'est un principe de contextualisation historique. Le deuxième principe, c'est solliciter le plus possible de points de vue pour qu'il y ait précisément une discussion critique. Troisième principe, le problème c'est que les minorités n'ont pas accès à l'espace public. Donc, la science pour elle est vraiment indissociable une science objective est indissociable d'une société démocratique, parce que pour que les points de vue arrivent à se coordonner, eh bien, il faut des mouvements sociaux. Et ça, c'est le lien très étroit qu'elle fait entre objectivité scientifique et mouvements sociaux. Parce que, comme l'a montré le féminisme, c'est dans les mouvements sociaux que le positionnement féministe se construit et que les questions se construisent. C'est-à-dire que toutes les questions de violence sexuelle, de consentement, de harcèlement sexuel, etc., c'est dans les mouvements sociaux que ça se consolide. Voilà, donc ça, c'est Harding. Et je dirais que c'est une démarche, pour moi, qui est presque trop scientiste, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement... C'est presque rigide, son cadre d'analyse. Donc, on est vraiment très loin d'un supposé flou postmoderne.
Donna Haraway, l'autre nom que vous citiez, une autrice très importante, lue très tôt par Bruno Latour, dont les travaux sont prolongés, d'une certaine façon, par Émile Yache, qui est venu dans cette émission parler de son livre l'année dernière, très très inspiré par la démarche d'Haraway, sont des autrices vraiment importantes, qui n'ont pas encore peut-être pris la place qu'elle mérite comme référence d'un point de vue épistémologique. Et c'est aussi pour ça que votre livre est très important. Je voudrais qu'on ait le temps quand même, Caroline Dibos, d'aborder la dernière partie du livre, parce que vous choisissez de parler de façon peut-être plus concrète de ces questions épistémologiques à propos de méthodes, à propos de méthodologie, à propos en particulier de l'enquête, et de l'enquête ethnographique. En notant, en observant à quel point la sociologie s'est institutionnalisée dans des formes de l'enquête qui laissent de côté tous ces aspects, en fait, et pour des raisons sociales, et pour des raisons politiques, et pour des raisons qui ont à voir avec la domination masculine, pour reprendre le titre de Bourdieu. Là, c'est pas de Bourdieu dont il est question, c'est d'une autre fondation de la sociologie, c'est pas celle non plus de Max Weber, même si il y a des liens avec la sociologie allemande et Simmel en particulier. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire la fondation de la sociologie à Chicago, à la fin du 19e ou surtout au début du 20e siècle. dont les femmes sont curieusement totalement absentes, en fait, Caroline Ibos.
Oui, alors ça, toute cette partie sur l'enquête, on y tient beaucoup. Notre propos étant qu'il y a quand même un malaise dans les enquêtes ethnographiques et que ce malaise, c'est pas un malaise dans la production de savoir, mais c'est un malaise dans les procédures démocratiques de production des savoirs. Bon. Mais pour revenir à l'école de Chicago, en réalité, c'est des choses que Éric Fassin et moi, on a un peu découvertes en travaillant sur ce livre. Donc c'est des choses, quand on a commencé notre livre, on ne savait pas.
Et même pour avoir moi-même travaillé beaucoup sur ce moment-là de la sociologie américaine, j'avoue que j'ai appris énormément de choses en vous lisant.
Voilà, donc c'est pas complètement absent. Par exemple, Daniel Sefaille en parle, donc c'est pas quelque chose d'absent. Mais donc voilà ce qui se passe à l'université de Chicago à partir de 1890. L'université de Chicago, elle est extrêmement liée à un lieu d'intervention intellectuelle et sociale qui s'appelle Hull House. À la tête de ce centre social, il y a une philosophe et sociologue, Jane Addams, mais aussi tout un groupe de femmes qui ont des liens très étroits, par exemple avec John Dewey. Donc il y a comme ça une sorte de communauté. Et effectivement, la sociologie n'est pas institutionnalisée. Et à Hull House, ces femmes font des enquêtes qui sont des enquêtes exploratoires, mais qui sollicitent de l'observation, qui sollicitent en fait des approches empathiques, c'est-à-dire se mettre à la place des personnes avec lesquelles on enquête.
Elles poursuivent en cela ce que Charles Booth avait fait à Londres, en fait, quelques années auparavant.
Absolument. C'est leur grand inspirateur, effectivement. Jane Addams va à Londres, donc il y a aussi des liens avec les Web, enfin, tout ça n'est pas en vase clos et c'est toujours des choses, toutes ces circulations qui sont précisément à rétablir parce que c'est tout un maillage qui se fait pour penser la question sociale, l'enquête sociale et la production des savoirs fiables.
Or, l'histoire de la sociologie a plutôt retenu que Jane Addams était une sorte de travailleuse sociale qui était investie dans le logement social en particulier, mais c'est beaucoup plus que ça.
C'est vraiment beaucoup plus que ça. Et là, enfin, j'encourage les auditeurs et les auditrices à lire Jane Addams, même si elle n'est pas beaucoup traduite, à lire Jane Addams. Et donc, que se passe-t-il? Après la Première Guerre mondiale, d'abord, il y a une espèce de reflux du féminisme, paradoxal, parce qu'on dit que ça y est, les femmes ont le droit de vote, donc elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Et Robert Park, lui, entend vraiment institutionnaliser la discipline. Or, et c'est là que c'est passionnant, pour institutionnaliser une discipline, il expulse littéralement les femmes de l'université sous deux prétextes qui se rejoignent. D'une part parce que ce serait pas assez scientifique ce qu'elles font, mais aussi parce que ce serait trop politique. Donc la fondation de la sociologie à Chicago, c'est de faire une science qui finalement soit neutre. Et là aussi, il y a une espèce de confusion entre neutralité et objectivité. Et c'est très intéressant parce que ça devient effectivement, enfin, l'école de Chicago, moi aussi, j'adore. Enfin, j'ai énormément lu et donc c'est pas une critique de l'école de Chicago.
Ça n'enlève rien à la qualité des monographies.
C'est une lecture critique, mais qui montre aussi que tout un tas de sujets qui étaient traités par Jane Addams et ses collègues femmes. Par exemple, la question de la criminalité enfantine, la question des violences de genre, la question du travail des femmes. Toutes ces questions, elles se retrouvent complètement expulsées d'une sociologie qui se concentre très largement dans l'école de Chicago sur l'étude des marges masculines, avec une très forte focalisation.
Le livre de Frasher sur le gang, les livres sur le Street Corner Society de William Footwhite, etc. Il y en a un que vous sauvez un petit peu par rapport aux autres, c'est le livre sur le hobo de Nels Anderson. Vous lui faites un sort un peu différent.
Oui, parce que Nels Anderson, précisément, c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à trouver sa place à l'université. Il y a eu un poste extrêmement tardivement, à plus de 60 ans. Lui-même avait été hobo. Donc précisément, il s'appuyait
vagabond.
Sur cette vagabond. Il s'appuyait sur cette expérience et sur sa partialité pour enquêter. Il n'avait pas d'enquêteur sur le terrain qu'il rémunérait, alors que d'autres le faisaient. Et donc, oui, il y a une forme de précisément de partage et de co-construction des savoirs. Donc, pour moi, et c'est un livre très peu, en fait, qui est beaucoup plus proche de ce que faisait Jane Addams dans sa vision exploratoire. Mais oui, je trouve que c'est quand même un très grand livre de sociologie qui peut continuer d'inspirer des méthodes.
Alors justement, à propos d'inspiration, vous poursuivez sur la façon dont, au fond, aujourd'hui, la relation enquêteur-enquêté, la manière de mener des enquêtes peut s'inspirer de Jane Addams en citant des travaux plus récents, plus contemporains.
Oui, parce que précisément toute cette, le fait que le travail scientifique, le travail sociologique soit aussi un travail social, c'est-à-dire que l'enquête, c'est une grande scène sociale, c'est une scène qui est traversée par les rapports de pouvoir, et si on reste dans l'optique de l'enquête comme un lieu de prélèvement de données, que l'on va prélever, ça c'est l'histoire de la discipline ethnographique, pas de la méthode ethnographique, mais de la discipline ethnographique, eh bien finalement, toute la question de la relation d'enquête, elle est effacée. Or, est-ce qu'il est possible de produire des savoirs juste au double sens, de la justesse et de la justice, si le protocole même de l'enquête n'est pas juste, s'il s'enracine dans des formes d'injustice épistémique. Et ça, c'est une vraie question, et on parle d'un malaise actuel dans l'enquête ethnographique, parce que ce sont des questions qui sont vraiment complètement en discussion. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, l'importance de restituer une enquête, l'importance de l'écriture, l'importance de l'implication de ceux qu'on appelle le plus souvent des enquêtés. Alors nous, on propose d'arrêter avec ce mot d'enquêté, qui renvoie à la passivité et à la manipulation, pour parler d'enquêtant, comme Freud suggérait de ne pas parler d'analyser, mais d'analysant. Voilà,
donc. Merci. Caroline Ibos, on continue de parler de ces questions dans la deuxième partie de l'émission à propos de ce livre donc que vous co-signez avec Eric Fassin, La savante et le politique. On pourrait dire, et vous utilisez l'expression et je l'ai reprise pour le titre de l'émission, La savante est politique, ce que le féminisme fait aux sciences sociales. Ça, c'est le sous-titre et on pourrait ajouter du bien. On continue donc, mais après un extrait d'un album en partie posthume, sorti donc cette semaine, 6 mois après la mort de Amadou Bagayoko. Nouvel album de Amadou et Mariam Mogoulou.
Tamara ibeko ye ibeko don magolo ni tamara ibeko don ibeko ye magolo ambe fe ka segiso
On parle de genre, notamment aujourd'hui, à la suite dans les idées. On en parle avec Caroline Dibos à propos de ce livre qu'elle vient de faire paraître avec Éric Fassin, La savante et le politique. Mais aussi avec vous, Caroline Lamarche, bonjour.
Bonjour, Sylvain Beaumont.
Vous êtes à distance avec nous depuis la Belgique où vous habitez, où vous travaillez. On vous doit de très nombreux livres. Et en cette rentrée, vous avez publié un livre dont je disais tout à l'heure toute l'importance qu'il a, Le Bel Obscur. Un livre que je ne veux surtout pas aujourd'hui avec vous et dans ce cadre-là réduire à une partie de ces objets. Mais il m'a semblé intéressant d'en parler avec vous de ce point de vue-là aujourd'hui. Dans ce livre, Le Bel Obscur, vous saisissez à la fois une période relativement contemporaine, voire contemporaine, et puis une période beaucoup plus ancienne avec un travail d'enquête historique, d'archives que vous avez mené pour écrire ce livre. Et vous posez aussi une question dont vous dites, à juste titre, qu'elle vous est apparue comme absolument non traitée par les recherches les plus contemporaines. Cette question, c'est celle de la place qu'occupe la conjointe d'un homme homosexuel aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup de mal à trouver dans la littérature autour du genre, dans la littérature militante, dans la littérature plus scientifique, des contributions à ce propos, Caroline Lamarche.
Oui, en réalité, je n'ai rien trouvé, sinon une étude qui date des années 70 aux États-Unis, par une universitaire dont l'époux était homosexuel et qui a constitué des groupes de parole qui incluaient les familles. L'homophobie fait des dégâts collatéraux dont on ne parle jamais. J'en veux pour preuve, par exemple, l'invisibilité de Constance Lloyd, l'épouse d'Oscar Wilde, qui apparaît comme une victime christique, et on oublie de dire qu'elle-même, journaliste de grand talent, féministe, parangon de la mode, mère admirable et qui accueillait les amants de son mari à la maison, est morte à 40 ans en exil, ruinée, épuisée, obligée de s'exiler à cause de l'opprobre victorienne. Et finalement, elle avait pourtant soutenu toujours Oscar Wilde, et c'est en raison de l'homophobie virulente qui l'a précipité, lui, dans la prison et dans la ruine qu'elle-même a été détruite. Et donc, j'ai voulu un peu soulever cet angle mort. Et d'ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Caroline Dibos. Je suis dans son livre que je trouve limpide et qui m'apporte beaucoup de confirmation. Et j'ai retenu une phrase lorsqu'elle dit que les savoirs ne sont jamais hors du monde, ils sont situés. Je dirais que j'ai vraiment situé ma démarche et j'ai mis en scène une narratrice qui, en effet, quelque part est au placard pendant des années, elle aussi, aime l'homme qu'elle s'est choisi, l'accompagne dans sa démarche par curiosité. Et aussi, on parlait de ce mot si important de déconstruction, qui n'est pas dénoncée mais pensée politiquement. Cette femme, ma narratrice, elle élevait comme toutes les femmes, je dirais, au juste milieu et à la neutralité précisément, eh bien, c'est la situation qui l'a déconstruite, c'est le fait que l'amour de sa vie se révèle homosexuel et qu'elle décide de s'intéresser, d'accompagner, tout en se donnant une liberté d'aller voir ailleurs. Et ce modèle-là, cette réinvention de la famille, j'ose à peine dire du couple, puisque ce n'est plus un couple, c'est une expérience que je mets en scène dans le livre. Et je crois que je prends soin de souligner que c'est évidemment la communauté LGBT et cette militance-là qui a précédé, je dirais, l'expérience de ce couple qui l'a structuré, non sans difficulté. Voilà, si je puis un peu résumer.
Caroline Nibos, avant de redonner la parole à Caroline Lamarche, est-ce que cette question, c'est-à-dire l'homophobie indirecte en quelque sorte, mais tout aussi violente, dont parle Caroline Lamarche, c'est une chose que vous aviez déjà rencontrée, soit dans des enquêtes, soit dans des lectures sociologiques ?
Je dirais deux choses rapidement. D'une part, la littérature, parfois, précède les sciences sociales dans les formes de problématisation. En réalité, là aussi, il y a des liens importants entre enquête et littérature. Alors, non, je ne pense pas à des travaux précis, mais je les connais pas tous. Mais cette réinvention de la famille, pour moi, elle fait écho à des choses et des travaux qui ont été menés en Union soviétique dans les années 80 et 90, où les couples, comme l'homosexualité était pénalisée, était un crime pénal, des couples d'hommes homosexuels et de femmes lesbiennes faisaient couple et faisaient famille ensemble. Donc c'était l'une des formes de la famille, entre guillemets, normale. Donc je trouve que c'est intéressant.
Caroline Lamarche, dans votre livre, vous avez surtout parlé jusqu'à présent de la situation la plus contemporaine, mais ce livre a une dimension historique très importante qui vous amène à situer votre récit dans une période qui est contemporaine d'Oscar Wilde dont vous parliez, et au fond à vous interroger sur la manière dont a été effacé, cancellé, pourrait-on dire aujourd'hui, un personnage dans une histoire familiale.
Oui, je suis tombée sur une archive familiale assez lacunaire qui concerne un ancêtre qui se nommait Edmond, qui est mort en 1865 seul dans une chambre d'hôtel loin de chez lui. Il venait de la bourgeoisie industrielle liégeoise. Il est mort seul à Orléans avec à ses côtés un jeune forain, artiste qui a rapporté sa mort à la mairie, donc une mort suspecte dont on ne sait rien. Et j'ai enquêté au départ de deux photos à ce point dissemblables que mon père s'était demandé s'il n'y avait pas deux Edmond dans la famille, et de deux lettres aussi absolument dissemblables signées du même Edmond. Et j'ai fait une sorte d'enquête très serrée qui inclut aussi beaucoup de lectures. Et justement, je n'ai pas lu Max Weber, mais j'ai lu Magnus Hirschfeld, qui est de la même génération. Et donc, je me suis nourrie un peu de deux siècles d'histoire de l'homosexualité. Et la disparition de ce jeune homme dans la généalogie familiale, le fait qu'on ait dit qu'il avait fait beaucoup de chagrin à sa mère, évidemment, j'avais les clés pour essayer de non seulement de le comprendre, mais quelque part de l'adopter. Parce que quand j'ai commencé ce livre, j'ai l'âge de sa mère au moment où il est mort et au moment où il était sorti, je dirais, de la famille.
Et comment vous avez...
Oui,
je vous en prie.
Non, je vous écoute.
Je vous demandais comment vous avez articulé, du coup, dans ce travail d'écriture, ces deux périodes, ce 19e siècle auquel vous accédez par des archives très, très lacunaires, et puis la réflexion que vous menez sur cette expérience singulière de vie qui n'est pas très documentée et que vous donnez à voir à travers un récit littéraire.
Je dirais que l'histoire si particulière du couple dont je parle, donc qui traverse les années SIDA jusqu'à aujourd'hui, j'avais beaucoup de mal à l'aborder, je ne trouvais pas la porte d'entrée, et c'est la découverte de cet ancêtre Edmond, des archives le concernant et ma propre enquête qui m'a permis quelque part de faire alliance avec un mort. Je trouve que les morts nous aident beaucoup. Et de chercher précisément, c'est un mot important aussi, des intersections. C'est-à-dire que le bel obscur, mon titre, vient d'une phrase de Francis Ponge, le corps du bel obscur hors du drap des paroles, ce qui est magnifique. C'est une histoire de corps, et le bel obscur, c'est le corps homosexuel. Et il y a deux beaux obscurs, je dirais. Il y a l'ancêtre Edmond et il y a Vincent, le mari de la narratrice. Et donc, entre eux, il y a déjà, je dirais, une rencontre entre Vincent et Edmond. Sauf que Vincent a une communauté autour de lui, la communauté militante homosexuelle. Mais l'intersection entre la narratrice et son ancêtre Edmond, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle apprend que son mari lui révèle, parce qu'il ne se ment pas, son homosexualité, elle est plongée dans une confusion, une solitude et un abandon du corps qui a probablement été celle de son ancêtre Edmond, qui est mort 3 ans après que le mot même homosexualité ne soit forgé et qui a dû être dans une grande, profonde solitude. Et donc, il y a entre ces trois personnages, je dirais, l'ancêtre Edmond, Vincent, le mari, puis l'ex-mari, et la narratrice, des fils qui se tissent et des intersections qui se déplacent un peu comme un kaléidoscope. Et cette richesse-là m'a permis ce va-et-vient, cette enquête qui est à la fois, je dirais, solide, mais aussi vagabonde, puisque je fais appel à une graphologue, à une astrologue, à des spirites avec les photos, me permettent de tisser un livre qui est un peu comme une tapisserie où j'ai travaillé, évidemment, les transitions, le passage d'une époque à l'autre. Cette femme, cette narratrice, elle est obsédée par cet Edmond, et la beauté de la photo et du deuxième portrait photographique l'obsède littéralement. Elle tombe amoureuse au fond de son visage aussi, de son trouble, du trouble que la photographie induit.
Caroline Ibos, peut-être une dernière remarque sur l'anachronisme éventuel ou la question des mots. Caroline Lamarche notait à l'instant que le mot homosexualité n'est apparu que quelques années plus tard. Aujourd'hui, on a non seulement des mots, mais aussi des concepts ou des théories qui nous permettent de penser des réalités sociales qui sont pour autant pas nouvelles, si les concepts et les théories le sont, elles. Et donc ça c'est assez intéressant de faire le lien, de faire ce travail historique, et beaucoup d'historiennes et d'historiens l'ont fait, de regarder le passé avec les outils dont on dispose désormais.
Oui, c'est très intéressant. C'est ça qui permet justement aussi de faire des contre-histoires. Et je parlais tout à l'heure d'injustice épistémique. Eh bien, la première injustice épistémique, c'est quand on n'a pas les mots pour qualifier ce qu'on vit. Alors, les exemples sont nombreux. Par exemple, le mot féminicide qui permet de refaire toute une histoire. Donc oui, c'est très, très, très important. Les mots sont... On pense avec les mots, on analyse avec les mots.
Merci beaucoup, Caroline Lamarche. Je rappelle le titre de votre livre, Le Bel Obscur. Il est publié aux éditions du Seuil. Il a paru en cette rentrée littéraire. Et le livre d'Éric Fassin et Caroline Ibos, La Savante et le Politique, paraît aux Presses universitaires de France. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les Idées.
France Culture, La Suite dans les Idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité avec un anniversaire quelques jours en avance, puisque le 4 novembre prochain au campus Condorcet à Aubervilliers, l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, fêtera ses 80 ans. Je suis en ligne avec Géraldine Duté, bonjour.
Bonjour Sylvain Bourmont.
Vous êtes chercheuse à l'INED, directrice déléguée à la recherche même de cette institution, et vous avez conçu ce programme dont on pourra dire aussi qu'il s'accompagne d'expositions qui sont proposées au sein de l'UMATEC de ce campus Condorcet. Comment vous avez conçu ce programme pour fêter les 80 ans d'une institution qui est, je crois, la plus petite des institutions de recherche autonomes en France, mais extrêmement dynamique? Comment vous y êtes pris? J'imagine que l'INED il y a 80 ans, c'était pas tout à fait la même chose que l'INED aujourd'hui.
Non, pas du tout, effectivement, c'est vrai. Alors, juste pour revenir, effectivement, donc déjà, merci beaucoup pour nous donner cette visibilité à ces 80 ans. Et alors, pour tout vous dire, l'anniversaire exact, c'est le 24 octobre, donc c'est demain, donc vous êtes plus proche aujourd'hui.
C'est vous qui allez être en retard.
Nous le serons le 4 novembre, on sera un petit peu en retard, parce que donc, par une ordonnance du 24 octobre 1945, c'est l'Institut National d'Études Démographiques qui a été créé. Et donc, seulement plus tard qu'on est devenu un institut de recherche, même titre que le CNRS ou l'IRD, c'était en 1986, donc bientôt 40 ans. Et effectivement, on est un petit institut par rapport au CNRS ou à d'autres EPST. Hein. On n'est que 60 chercheurs titulaires dans une structure d'à peu près 250 personnes. Mais bien sûr, autour des chercheurs, il y a beaucoup de jeunes chercheurs en thèse, post-doctorat ou chercheurs associés, et aussi des ingénieurs et des personnels administratifs et techniciens qui soutiennent beaucoup toutes les équipes, d'où ce dynamisme. Donc effectivement, par rapport à l'après, juste le lendemain de la guerre, on travaille toujours sur les questions de population, hein, c'est ce qui fait notre cœur de métier. On travaille sur les sciences de population, les dynamiques, et bien évidemment, ces dynamiques-là, elles évoluent au fil du temps. Donc, les questions autour de la natalité, de la fécondité, elles ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'elles ont pu l'être à un moment donné. Alors, entre-temps, il y a eu les Trente Glorieuses, donc il y avait une préoccupation, effectivement, au lendemain de la guerre, et de nouveau, on se retrouve aujourd'hui dans une logique un peu de préoccupation, en tout cas, du point de vue des politiques, qui nous demande en fait des études sur les raisons de la baisse de la natalité aujourd'hui dont on peut entendre, etc. Donc
ça vous ressentez cette pression sociale, cette demande politique? Il y a tout un tas d'essais plus ou moins sérieux qui paraissent en ce moment sur les balançoires vides ou que sais-je à propos de ce redressement démographique dont on aurait besoin. Est-ce que comme chercheuses et chercheurs vous ressentez cette pression-là?
Alors, en fait, nous, on est indépendants, donc on n'a pas cette pression, on va dire, sur impulser. On ne va pas se mettre tous à travailler sur cette thématique si c'est pas la nôtre. Mais on a des demandes et ça fait partie aussi de notre mission d'informer à la fois la société, mais aussi les décideurs. Donc, d'essayer d'apporter des éléments de compréhension sur les phénomènes, les changements de comportement des populations. Donc, de fait, par exemple, il y a pas très longtemps, un des bulletins de vulgarisation scientifique qui est le Population et Société, qui est un bulletin mensuel édité tous les mois donc par l'INED, traitait justement de la question des intentions de fécondité qui ont pu être mesurées assez récemment là dans une enquête qui est en fait une enquête en France mais qui est à l'échelle européenne, qui permet des comparaisons internationales et qui montre qu'effectivement il y a une baisse dans le désir d'enfant à tous les âges chez les personnes, les individus aujourd'hui. Et donc on essaye de donner des éléments de compréhension pour les décideurs et d'apporter cette information et ces connaissances sur les raisons d'une baisse qui peut être aussi liée en particulier à des effets de génération. Donc si on a des générations qui sont en âge d'avoir des enfants qui sont peu nombreuses, on a aussi moins de naissances. Donc il y a aussi des effets comme ça qui sont purement des effets de structure de la population et puis des effets aussi de tendance à la baisse de la fécondité. Mais qu'on peut aussi mettre dans un regard plus international parce que cette baisse de la fécondité, en fait, elle se retrouve dans la plupart des pays du monde. Et donc, effectivement, c'est une tendance qu'on observe et qui est déjà bien, bien établie de longue date dans beaucoup des pays européens. Donc, on était quand même un pays un petit peu à part dans la situation, enfin, par rapport à la situation de la fécondité en Europe.
Alors, cette question des relations avec les politiques publiques, d'ailleurs, elle fait l'objet d'une des tables rondes de cette journée des 80 ans. Cette journée, elle s'ouvre, et c'est vous qui allez plancher sur la question, Géraldine Duté, par la question de l'avenir de l'INED. En fait, c'est peut-être plus confortable de tenter de répondre à cette question quand on est démographe et quand on travaille à l'INED, parce que les démographes ont cette réputation de pouvoir, de façon peut-être un peu plus solide que d'autres sciences sociales, essayer non pas de prédire l'avenir, mais en tous les cas, ils ont des outils un peu plus solides pour se projeter que d'autres disciplines, non ?
Alors c'est vrai que on peut faire de la projection déjà. Bon, on a des collègues aussi qui travaillent sur ces questions, mais je pense que c'est pas forcément l'essentiel des activités de recherche des équipes actuellement. Mais c'est surtout donner des clés de compréhension et surtout effectivement des lignes de lecture sur ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'on peut pas forcément prédire à 50 ans, au-delà d'une de 30 ans, qui est à peu près la vie d'une génération, pour avoir qui va avoir des enfants bientôt, on est un petit peu mal armé pour pouvoir prédire au-delà. Et d'ailleurs, les projections, quand on regarde dans le passé les anciennes projections, on n'est pas forcément tout à fait calé sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, par exemple, l'espérance de vie, elle continue d'augmenter bien au-delà de ce qu'on pouvait penser dans les années 60. Et donc, on se pose toujours la question de savoir jusqu'où peut aller l'espérance de vie à la naissance. On arrive à des niveaux qui sont vraiment très élevés dans certains pays du monde, dont la France. Et donc, du coup, voilà, on réfléchit à ces questions-là. Jusqu'où on peut aller? Et c'est pas forcément des projections, tout à fait quantifiées avec jusqu'à quel nombre exactement est-ce qu'on peut aller, etc. Mais plutôt, comment les tendances peuvent évoluer et qu'est-ce que la société aujourd'hui nous dit. On peut aussi aider les politiques dans, par exemple, tout à l'heure, j'entendais vous inviter passer sur la question des couples de même sexe. Pouvoir quantifier en fait la réalité sociale du nombre de personnes qui vivent avec quelqu'un du même sexe qu'eux, c'est quelque chose qui est donc vraiment clairement de la démographie, d'essayer de mesurer ces phénomènes-là, et puis aussi ensuite de comprendre comment les gens vivent et comment est-ce que c'est des générateurs d'inégalités ou de violences, par exemple, dans leur vie. Ça, c'est aussi des éléments sur lesquels on va travailler, sur notamment tout ce qui est inégalité, discrimination. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Si je reviens sur la journée du 4 novembre, donc moi, je suis pas celle qui a organisé cette journée particulièrement, même si, bien évidemment, j'ai accompagné tout à fait l'agenda. Et en fait, c'était une journée qu'on voulait vraiment ouverte à la société, et on a mis l'accent sur ce qui était les recherches qui étaient en lien avec la société.
Donc, valorisation de la recherche et aussi recherche participative, par exemple.
Voilà, c'est ça. Donc, une table ronde sur les recherches participatives, c'est quelque chose qui est en essor aujourd'hui dans la science. C'est-à-dire que vraiment, on va vers des recherches qui incluent, en fait, les personnes qu'on interroge ou les personnes qui sont un peu les objets de recherche dans la constitution de notre recherche. Et donc, là, il y a une table ronde, effectivement, sur ce sujet-là, avec des collègues chercheurs, mais aussi des associations. Et puis, à côté, on a aussi une table ronde avec les politiques publiques, puisque, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on les accompagne. Donc, on va être, par exemple, auditionné pour l'audition, l'Assemblée nationale, par exemple, pour les questions de fécondité ou de mortalité infantile, par exemple, aujourd'hui, qui augmente en France de manière préoccupante, sans qu'on ait les éléments clairement, les explications bien précises de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'on cherche à décrypter, à l'INED, et puis avec d'autres collègues, bien évidemment, on n'est pas seul à travailler sur ces thématiques, mais voilà, ça fait vraiment le cœur de nos recherches. Et puis, on ne travaille pas non plus que sur la France, on travaille aussi sur plein des perspectives aussi au niveau international, je le disais, en comparaison à la fois européenne, mais aussi internationale, et puis aussi dans les pays du Sud, quand les données font défaut, notamment qu'il n'y a pas d'état civil, d'essayer d'avoir des collectes de données qui nous permettent d'avoir plus d'informations sur l'état de santé des populations, la mortalité, la fécondité.
Et ça dans une situation dans laquelle les États-Unis se sont retirés de ce travail, notamment via USAID, en fait, ce qui conduit à des situations, j'imagine, assez compliquées dans un certain nombre de pays pour la
COVID. Oui, alors tout à fait. Donc c'est vrai qu'on n'est pas, nous, touchés directement, mais on l'est indirectement parce que USAID était le financeur d'une plus grande source d'informations sur le développement, notamment dans les pays du Sud. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment on va pouvoir continuer à collecter des données dans un grand nombre de pays où il n'y a pas les statistiques de routine dans la statistique publique qu'on peut avoir comme en France.
Merci Géraldine Duthé, merci beaucoup. On trouve toutes les informations sur la page de la Suite dans les idées pour cette journée d'études et les expositions aussi au campus Condorcet pour les 80 ans de l'INED. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était la Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marcet. Sorge Leroy aujourd'hui à la réalisation.